elle avait le livre, ça parle d'une petite fille qui fait que des bêtises et même elle coupe des poissons. Puis,
oui, oui.
Puis après, oui, avec, elle fait fondre la poupée de cirque de son père. Et
elle se fait un peu maltraiter par sa belle-mère et tout, mais elle la folle.
Ouais, elle a une belle-mère.
La petite fille, elle se fait punir, elle se fait pardonner et tout.
Elle avait même deux amies qui s'appellent Madeleine, je crois.
J'avais surtout ce souvenir-là, moi, de... C'était une petite fille qui faisait des bêtises. Bon, la mère est décédée et le père aussi, je crois. Bah, c'est un milieu, c'est la bourgeoisie, enfin l'aristocratie même. Mais...
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que veut dire votre prénom? Je vous invite à chercher la réponse à cette question si vous ne la connaissez pas. Il est toujours savoureux de trouver un sens caché derrière son identité. Moi, le jour où j'ai appris petite que Dorothée signifiait cadeau des dieux en grec, eh bien j'ai eu de quoi couper le sifflet à tous ceux qui m'associaient à une émission de télé pour enfants. Et pour la modestie, on repassera. La petite fille dont on va parler aujourd'hui s'appelle Sagesse. Enfin, elle s'appelle Sophie, mais son prénom vient d'un mot grec qui signifie sagesse. Et c'est assez amusant parce qu'elle n'est pas forcément très sage. Les malheurs de Sophie, voilà notre sujet ce dimanche dans Barbatruc. Un roman célébrissime de la comtesse de Ségur, premier volet d'une trilogie. Sophie est une enfant espiègle, avide d'expérience et franchement désobéissante. Elle incarne surtout une magnifique force de vie. Ce livre paru au 19e siècle a bien des choses à nous dire aujourd'hui et il serait très sage de le lire ou de le relire. Oui, la sagesse a plusieurs sens. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Cette émission est préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par Christophe Humbert. Mathias Alléon est à la technique. Programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour Marie de Plechin.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes écrivaine pour la jeunesse et pour les adultes. Vous êtes aussi Grand Ours, on se croirait dans Boucle d'Or un peu. Mm-hmm. La Grand Ours, c'est la récompense du Salon de la littérature jeunesse de Montreuil qui vous a été décernée cette année pour l'ensemble de votre œuvre. Papa Ours, Maman Ours, c'est vous. Votre livre le plus récent est un roman historique, La Capucine, à l'école des loisirs. C'est le dernier volet d'une trilogie qui se déroule au 19e siècle. Trois portraits de femmes libres, Séraphine, Satin Grenadine et La Capucine. Une trilogie, le 19e siècle, ça fait des points communs avec la comtesse de Ségur quand même, est-ce un hommage?
C'est certainement pas un hommage conscient, mais c'est sûrement une imprégnation, ça c'est... Sans aucun doute.
Je tenais à vous inviter dans Barbatruc et c'est vous qui avez choisi de parler des malheurs de Sophie. Vous allez nous dire au cours de cette émission pourquoi cette petite fille vous passionne autant. J'ai aussi invité un sociologue. Bonjour François de Singly.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter, spécialisé en sociologie de la famille, sociologie du couple et de l'éducation des enfants. Vous êtes l'auteur entre autres d'une sociologie de la famille contemporaine chez Armand Collin et d'un livre sur les ados qui est très joliment titré Les ados naissants. Vous avez relu, je crois, pour nous la comtesse de Ségur, est-ce que c'était une expérience intéressante?
Ah oui, oui, ça me fait un peu immodeste aussi, mais j'ai regretté de ne pas l'avoir lu pour justement reparler des grands tournants de l'éducation, parce que c'est naturellement pour moi un livre qui reflète vraiment l'éducation au milieu du 19e, très remarquable, mais bon, on ne peut pas le lire aujourd'hui comme on devait le lire à ce moment-là.
La comédienne et cinéaste Agnès Jaoui, dans une interview au Monde il y a quelques semaines, disait qu'il y a deux sortes de gens, Marie Desplechin, ceux qui ont lu La Comtesse de Ségur étant petit et les autres. J'ai eu cette chance, précise-t-elle, La Comtesse de Ségur a été centrale dans la construction de mon univers mental, dit Agnès Jaoui. Est-ce que vous diriez la même chose?
J'aime bien qu'elle le dise parce que c'est une créatrice. Mais elle est centrale dans la construction de beaucoup de gens et d'énormément de... C'est marrant, quand on regarde les écrivains français, ils sont très très nombreux à la citer. Alors, pour en dire du mal éventuellement, mais il y a Simone de Beauvoir, il y a Marguerite Yourcenar, il y a Marcel Proust, il y a Mauriac, il y a Gide, enfin tout le monde y va. Et ce qui est très intéressant dans l'œuvre de la comtesse de Ségur, c'est qu'elle a formé des générations et des générations, non seulement d'écrivains, mais de français. Elle les a introduits à la langue et introduits au récit. Et je ne vois pas de personnes comparables. Je ne vois pas d'œuvres comparables dans notre histoire depuis 150 ans.
Diriez-vous que cette autrice est aujourd'hui reconnue à sa juste valeur ou qu'elle est victime d'un certain mépris?
oui, il y a un énorme préjugé parce que les gens jugent sans avoir lu ou relu très souvent. Et donc, on lui accole des qualificatifs qui sont très pratiques. On dit, ah, elle est moralisatrice, ah, elle est sadique. En fait, c'est pas vrai. Ou alors, c'est trop court. Mm-hmm. Ou encore une fois, faut pas l'avoir relu. Je pense que ça accompagne un certain mépris de l'enfance globale en France.
On va raconter tout à l'heure l'histoire de Sophie Rostopchine, c'était son nom, hein, la comtesse de Ségur, un destin assez romanesque. Mais d'abord, s'il vous plaît, entrons dans le roman. Nous allons écouter un premier extrait des Malheurs de Sophie, lu par la comédienne Sylvie Joly, extrait d'une émission de France Culture en 1988, le célèbre épisode des Poissons Rouges.
Sophie était étourdie. Elle faisait souvent, sans y penser, de mauvaises choses. Voici ce qui lui arriva un jour. Sa maman avait des petits poissons, pas plus longs qu'une épingle et pas plus gros qu'un tuyau de plumes de pigeon. Madame de Réan aimait beaucoup ces petits poissons, qui vivaient dans une cuvette pleine d'eau, au fond de laquelle il y avait du sable pour qu'ils puissent s'y enfoncer et s'y cacher. Tous les matins, Madame de Réan portait du pain à ces petits poissons. Sophie s'amusait à les regarder pendant qu'ils se jetaient sur les miettes de pain et qu'ils se disputaient pour les avoir. Un jour, son papa lui donna un joli petit couteau en écaille. Sophie, enchantée de son couteau, s'en servait pour couper son pain, ses pommes, des biscuits, des fleurs, etc. Un matin, Sophie jouait avec son ménage. Sa bonne lui avait donné du pain qu'elle avait coupé en tout petits morceaux, des amandes qu'elle coupait en tranches et des feuilles de salade. Elle demanda à sa bonne de l'huile et du vinaigre pour faire la salade. « Non, répondit la bonne, je veux bien vous donner du sel, mais pas d'huile ni de vinaigre qui pourrait tacher votre robe. » Sophie prit le sel, en mit sur sa salade. Il lui en restait beaucoup. Si j'avais quelque chose à saler, se dit-elle. Je ne peux pas saler du pain. Il me faudrait de la viande ou du poisson. Oh, la bonne idée. Je vais saler les petits poissons de maman. J'en couperai quelques-uns en tranches avec mon couteau. Je salerai les autres tout entier. Que ce sera amusant. Quelle jolie place ça fera. Et voilà Sophie qui ne réfléchit pas que sa maman n'aura plus ces jolis poissons qu'elle aime tant, que ses pauvres petits souffriront beaucoup d'être salés vivants ou d'être coupés en tranches. Sophie court dans le petit salon où étaient les petits poissons, elle s'approche de la cuvette, les pêche tous, les met dans une assiette de son ménage, retourne à sa petite table, prend quelques-uns de ses pauvres poissons et les étend sur un plat. Mais les poissons, qui ne se sentaient pas à l'aise hors de l'eau, remuaient et sautaient tant qu'ils pouvaient. Pour les faire tenir tranquilles, Sophie leur verse du sel sur le dos, sur la tête, sur la queue. En effet, ils restent immobiles. Les pauvres petits étaient morts. Quand son assiette fut pleine, elle en prit d'autres et se mit à les couper en tranches. Au premier coup de couteau, les malheureux poissons se tordaient en désespéré, mais ils devenaient bientôt immobiles parce qu'ils mouraient. Après le second poisson, Sophie s'aperçut qu'elle les tuait en les coupant en morceaux. Elle regarda avec inquiétude les poissons salés. Ne les voyant pas remuer, elle les examina attentivement et vit qu'ils étaient tous morts. Sophie devint rouge comme une cerise. « Que va dire maman ?» se dit-elle. « Que vais-je devenir, moi, pauvre malheureuse ? Comment faire pour cacher cela ?» Elle réfléchit un moment. Son visage s'éclaircit. Elle avait trouvé un moyen excellent pour que sa maman ne s'aperçût de rien. Elle ramassa bien vite tous les poissons salés et coupés, les remit dans une petite assiette, sortit doucement de la chambre et les reporta dans leur cuvette.
Ni vue ni connue, Sophie donc remet les poissons dans la bassine. Marie Desplechin, Sophie est-elle sadique ?
Et pas du tout, parce que nous cuisons le homard et le crabe vivant, on fait du canard au sang et du foie gras, donc Sophie, elle fait la cuisine. Et en plus, elle est très logique, parce qu'elle a un petit couteau, il faut qu'elle s'en serve, et il y a du sel, il faut qu'elle sale. Donc en fait, elle apprend que la socialisation demande une certaine part d'hypocrisie et de déplacer les valeurs en fonction de, voilà, d'un ordre qui n'est pas un ordre logique. Mais Sophie, elle est... C'est à peine une bêtise, c'est une bêtise sociale, mais c'est pas une bêtise en soi.
A-t-on affaire à une enfant qui découvre sa toute-puissance, François de Singly ?
Tout-puissant, non, elle n'a pas effectivement, par rapport en tout cas au 19e, suffisamment, entre guillemets, intériorisé un ensemble de règles sociales, de telle sorte que, elle y va. Il y a Paul,
le cousin,
qui lui représente
beaucoup
le fait
plus sage.
Qu'il est déjà lui intériorisé.
La mère ensuite découvre les morceaux de poisson mort dans la bassine. Alors elle soupçonne les domestiques et en particulier un certain Simon qui doit être donc renvoyé le lendemain. Résultat, Sophie culpabilise et elle avoue que c'est elle qui a tué les poissons. Et elle n'est pas punie. Sa mère lui dit ceci dans le roman. Le bon sentiment qui t'a fait avouer ta faute pour excuser Simon te vaudra ton pardon. Il y a une bonne dose de moralisme là quand même, Marie Desplechin.
Ça me semble assez efficace, non? Enfin, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, là. C'est pas mal, parce que l'enfant n'est pas battu, l'enfant n'est pas puni, on lui explique que... voilà, c'est... Non, moi, je trouve ça plutôt pas mal comme principe éducatif. Et d'ailleurs, tu vois, dans la comtesse de Ségur, vous avez la bonne et la mauvaise éducation. La mauvaise éducation, c'est frapper. Donc, il y a les grandes frappeuses, Fichini, les fouetteuses. Et après, la bonne éducation est de demander à l'enfant de réfléchir, de penser et de demander le pardon, qui est une forme de réintégration dans la communauté. Et là, c'est moderne, c'est un mot qui veut rien dire, mais ça me semble assez pertinent.
Surtout que c'est valeur contre valeur, parce que c'est les poissons. Bon, non. Là, elle fait preuve du fait que, justement, elle fait de l'altruisme. C'est-à-dire, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui soit puni. Ça, c'est incontestablement. Moi, le mot moral ne me gêne pas. C'est de la morale de tenir compte de l'autre et tout. Et assez souvent, dans les histoires, c'est ce qui l'a fait craquer, parce que tout d'un coup, elle redevient... Alors, elle n'a pas intériorisé les règles, on pourrait dire, sociales. D'une certaine façon, à mon avis, là, elle intériorise une règle morale qui est je ne dois pas être tranquille et pendant ce temps-là, en plus le domestique, lui, va payer. Non, c'est une belle histoire. Je voulais quand même dire
donc,
par rapport aux poissons, en dehors de ça, hier, je parle avec mon voisin qui est dans les Landes et qui a mon âge. Et alors, je lui fais raconter des bêtises, justement. Et alors, très drôle, parce qu'il est sorti le coup du poisson. Mais pas celle-là. C'est, il était enfant de cœur, et donc un de leurs grands jeux était de pêcher des tout petits poissons, les petits vairons, et de les mettre dans le bénitier pour que les, les grenouilles qui plongeaient leurs mains aient peur.
Oh, les dit, grenouilles avaient peur des poissons.
On pourrait rajouter, on pourrait rajouter un chapitre.
Parlons de l'autrice de ce roman. Vous lui avez consacré un très beau texte, Marie Desplechin, dans un livre collectif intitulé « L'une et l'autre » aux éditions de l'Iconoclaste. Sophie Rostopchine est née en Russie, elle a vécu au XIXe siècle. Elle arrive en France donc et se marie au comte de Ségur. Elle a 8 enfants, 4 garçons et 4 filles. Que s'est-il passé après la naissance de la dernière fille ?
Elle tombe dans une très profonde dépression qui va durer des années et des années. Elle ne peut plus parler. Elle s'adresse à ses enfants qu'elle adore en écrivant sur une ardoise. Et elle est enfermée avec des migraines épouvantables dans sa chambre.
Elle ne parle plus pendant des années. Et ensuite seulement, elle se met à publier des romans. C'est une vocation très tardive. Un premier roman publié à 56 ans, la comtesse de Ségur.
57. Mais elle vient aussi d'une famille où tout le monde écrivait. C'est des familles à l'époque où on n'écrit pas pour être publié, mais l'écriture, ça fait partie de la vie. Et elle écrit sans doute des petites scénettes pour des petits journaux sur des principes d'éducation. Et par un double concours de circonstances, et probablement grâce à son mari, Louis Hachette, au moment du développement des chemins de fer, crée les relais Hachette, a besoin de livres, crée une collection pour enfants. Et on demande à la femme d'Eugène de Ségur, qui s'ennuie à la campagne, de faire des romans pour enfants. Déjà, elle donne des contes qu'elle avait déjà fait pour ses petits-enfants. Les contes sont en cours de parution. Il y a la petite fille modèle qui est quasiment prête. Elle le donne et elle écrit. Elle va faire toute son œuvre sur 15 ans. Et elle va la négocier chèrement avec Hachette.
Et quelle œuvre ! Alors, l'autrice de ce roman, Les Malheurs de Sophie, est une comtesse. L'héroïne, Sophie, vit dans un château entourée de domestiques. Elle s'adresse à la bonne en disant « ma bonne ». Le milieu social, évidemment, n'est pas un détail dans cette histoire. Ça nous a donné envie de poser une question saugrenue à des enfants d'aujourd'hui. Est-ce que ça change quelque chose d'être riche quand on fait des bêtises ? Notre reporter Juliette Proutot a promené son micro dans les rues et dans les squares du 19e arrondissement de Paris. Des enfants choisis au hasard qui sont plutôt, disons, issus de classes moyennes.
Barbatruc.
On a tous déjà fait des bêtises quand on était petits.
Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend. Ça dépend aussi des moyens dont on dispose pour faire les bêtises. Donc les bêtises sont différentes, mais après...
Non, ça change rien.
Parce qu'il y a des riches, ils sont capricieux. Parce qu'ils sont habitués à faire des bêtises et que leurs parents ils leur disent rien.
Ce qui change, c'est aussi peut-être les conséquences. Si tu fais des bêtises, par exemple, si tu es dans un milieu très pauvre et que tu commences à jouer, faire des bêtises avec de la nourriture et tout, ça va pas se passer pareil que si tu es dans la bourgeoisie.
Bah, ça dépend un petit peu. Parce que souvent, quand on a des sous, on est plus sage. Surtout quand on est un roi, ou un prince, ou une princesse. Parce que sinon, souvent on est habillé très proprement, et les parents veulent pas qu'on se salisse, car les habits, ça coûte très cher, les habits qu'ils ont. Et donc... alors que je pense que les pauvres, ils peuvent faire plus de bêtises parce que leurs habits, ils portent quasiment toujours les mêmes. Donc ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent avec leurs habits.
Franchement, on peut faire autant de bêtises que n'importe où, mais...
je pense pas que ce soit de la quantité, mais... Enfin, c'est pas les mêmes, je pense.
Que tu fais moins de bêtises quand t'as moins d'argent. Enfin, quand ta famille est moins riche, je pense, parce que, je sais pas, tu penses que c'est plus grave de faire une bêtise.
Moi, je pense qu'on peut faire les mêmes bêtises dans une famille un peu bourgeoise que dans une famille, entre guillemets, normale.
Moi, je pense que c'est le lieu, en fait, parce que il y a des choses qui attirent plus l'œil que d'autres, t'as plus envie de les toucher et du coup, tu fais plus de bêtises. Dans une grande maison, il y a plein de pièces et plein d'objets que t'as plus envie de toucher.
Pour moi, c'est pas la richesse qui ferait changer les bêtises et voilà.
Voilà, quand on a des sous, on est plus sage. Ces mots d'enfants et d'ados n'ont pas la valeur d'une étude sociologique, bien sûr, François de Singly, mais c'est un micro-trottoir, mais ces paroles sont parfois surprenantes. Quand on est riche, il y a plus de choses à casser, donc plus de bêtises possibles.
Moi, je serais plutôt sur le fait que, même en tant que sociologue, je ne suis pas sûr que c'est grand-chose à faire. Qu'on ne fasse pas forcément les mêmes bêtises.
Mm-hmm.
Ça me fait penser à la vie à un long fleuve tranquille. Il y a une représentation sociale qui fait qu'on pense que les riches sont soumis à plus de règles. Alors, c'est vrai, à table, etc. Et que les enfants de la famille pauvre ont le droit de se baigner beaucoup plus naturellement et tout. Donc, nature-culture. Si on rapproche culture de éducation sévère, oui. Mais c'est un mythe, bien évidemment, puisque, d'ailleurs, dans les classes populaires, ils sont soumis à l'usine et tout. Je veux dire, je pense qu'ils sont soumis à plus de règles même que, justement, les rois.
Marie Desplechin, le milieu dans lequel évolue cette petite Sophie fait-il partie du charme de la lecture des textes de la comtesse de Ségur ?
Ouais, il y a deux choses dedans. Il y a que les enfants, vous leur donnez à lire des histoires de rois et de princesses, et ils le disent dans les interviews. Voilà, c'est un monde, c'est bien, parce que ça vous permet de styliser l'histoire, en fait, de l'épurer. Voilà, ça, vous le posez là. Après, la comtesse de Ségur, elle est une observatrice assez fine, enfin même fine, de la société de son temps. Mais elle l'observe avec ses codes. Il faut jamais oublier où est-ce qu'elle est née, de quel milieu elle vient, à qui elle est mariée. Et même par rapport à ça, elle est assez mahonde parce qu'elle est assez paradoxale. Elle est réactionnaire, mais sur un tas de côtés, elle l'est pas du tout. Ça lui échappe. C'est vraiment une intelligence, on pourrait dire. On peut choisir entre brouillonne, libre, paradoxale et... Donc c'est sûr, ça se passe dans le milieu qu'elle connaît, voilà, et elle s'inspire dans les malheurs de Sophie. C'est la plupart des anecdotes, presque toutes, je crois, sont réelles, c'est des vrais... Et c'est une partie elle qui l'a fait, hein, la petite Sophie qui vole le pain, ou qui des chevaux, qui boit l'eau des chiens, c'est elle quand elle était petite.
Il faut écrire ce que l'on voit, c'était son adage.
C'est ce qu'elle disait à sa fille, sa dernière justement, quand elle a voulu écrire. Et elle utilise aussi des histoires de ses propres enfants. Donc elle mélange tout ça, et ça fait Sophie, donc évidemment c'est des nobles. Après, elle pense que, bon, noble, c'est quand même très bien. Noble ou peuple, c'est bien. Ce qui l'inquiète plus, c'est bourgeois au milieu. Ça, c'est un peu comme Balzac.
Ça la dérange un peu.
Elle se pose des questions. Elle ne sait pas très bien comment l'interpréter.
Barbatruc.
Dimanche soir, Dorothée Barba sur France Inter.
Dans ma vie, rien ne se passe. Je m'ennuie dans mon salon et je n'ai pas besoin d'une invitation pour laisser traîner mes yeux dans ta maison. La vie est belle vue d'en face, tout est beau, rien ne dépasse. Je connais toutes les réponses à mes questions sans avoir à demander la permission. Comme elle est belle vue d'en face.
Je tourne en rond et je me noie dans vos vies. Moi,
d'En Face. C'était Yael sur France Inter. Et nous parlons ce dimanche des malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, roman paru au XIXe siècle, premier volet d'une trilogie qui est suivie des petites filles modèles et des vacances. La romancière Marie Desplechin et le sociologue François de Singly sont mes invités. Alors on va écouter un nouvel épisode de ce roman, si vous le voulez bien. Je dis épisode parce qu'il s'agit bien sûr de chapitres, mais ce roman est construit un peu comme un feuilleton. À chaque chapitre, une nouvelle bêtise. Voici la bêtise des fruits confits, racontée par Sophie Marceau. Cette fois, c'est un extrait de livre CD, adaptation du texte de la comtesse de Ségur.
Un jour, Madame de Réan fit appeler Paul et Sophie. « Regardez ce que je viens de recevoir. » Émerveillés de gourmandise, les enfants découvrirent une grande boîte de fruits confits multicolores, tous bien alignés, chacun blotti dans sa collerette de papier dentelle. « Vous avez le droit d'en prendre chacun ?» Deux, annonça Madame de Réan. Sophie les dévorait des yeux. Elle cherchait lesquels étaient les plus gros. Elle s'empara d'un abricot et d'une poire. Paul choisit une prune et un morceau d'angélique. Cela fait, Madame de Réan alla déposer la boîte sur une haute étagère. « Si vous êtes sage, je vous en offrirai deux autres demain. Maintenant, allez jouer. » Mais Sophie, en cachette, ne tarda pas à revenir dans la pièce. Elle approcha une chaise de l'étagère, y grimpa, attrapa la boîte et l'ouvrit.
« Je vais seulement regarder, pour choisir à l'avance ce que je mangerai demain, »
se disait-elle. Après avoir examiné, flairé, léché, elle voulut goûter. Juste un peu. Elle croqua un petit morceau de fruit, puis deux, puis trois, puis un de chaque couleur. Ensuite, elle referma soigneusement la boîte, la remit à sa place et redescendit de la chaise. Le lendemain, quand Madame de Réan voulut offrir de nouveaux fruits confits à Paul et à Sophie, elle fit une drôle de grimace. « Quelqu'un est venu les grignoter? Qui a bien pu faire cela? Avez-vous une idée, les enfants ?»«
J'ai vu passer une souris, » dit Sophie. « Ça doit être elle, hein ?»
Pour se moquer de sa cousine, Paul fit semblant d'être d'accord.
« C'est sûr, il y a des souris savantes. Elles ont appris à ouvrir et à refermer les boîtes. »
Madame de Réan regarda sa fille dans les yeux. « Sophie, vous auriez pu remettre à sa place la chaise sur laquelle vous avez grimpé. » Sophie répondit trop vite sans réfléchir.
« Oh maman, excusez-moi, j'ai oublié. Je vais la ranger tout de suite. »
« Eh bien mademoiselle, moi je ne vais pas oublier. Nous donnerons au chien les fruits que vous avez entamés et je partagerai tous les autres avec Paul. »
Les malheurs de Sophie, racontés par Sophie Marceau, au texte de Jean-Pierre Kerlock, d'après la comtesse de Ségur. C'est un livre CD publié chez Glénat Jeunesse. Elle se fait avoir comme une bleue dans cet épisode, la petite Sophie, Marie Desplechin.
C'est tellement vrai. J'ai tellement d'exemples de gosses en tête. On a pitié d'eux. Ils s'enferment dans un mensonge minable. On sait bien que c'est eux qui ont bouffé. Voilà. Et ils essaient de s'en sortir. Et ce qui est merveilleux dans tous les épisodes, c'est quand même dingue qu'on soit du côté du coupable tout le temps. C'est-à-dire, on est du côté du méchant dans la comtesse de Ségur parce que c'est lui qui est intéressant. Et on a en totale empathie avec lui jusqu'au moment où elle s'enferme dans les mensonges grotesques et qu'elle essaie de sauver sa peau. Et c'est tragique parce qu'évidemment, on sait bien que ça se retournait contre elle.
À quoi ça tient de restituer ainsi la vérité de l'enfance?
Ça tient à pas en avoir bougé. Je pense que l'enfance qu'elle a eue a dû être une enfance à la fois extraordinaire et extraordinairement violente. Et elle est vraiment restée figée à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'elle est tellement en empathie avec un enfant avant 7 ans.
La comtesse de Ségur a eu 8 enfants, mais c'est bien de son enfance à elle qu'elle parle dans ses romans, Marie Desplechin.
Non, parce qu'elle l'utilise aussi, elle se revoit, que je pense que c'est une expérience qu'on a tous avec les enfants qu'on croise, avec lesquels on vit, c'est de retrouver notre propre enfance à travers eux. Et c'est une femme, c'est très joli de réimaginer son histoire, elle a adoré ses gosses, avec une vénération particulière pour son fils aîné qui était un sacré dingue.
Gaston.
Gaston, ouais. Et elle les a adorés et vraisemblablement très beaucoup aimés et elle a partagé, elle a retrouvé son enfance à travers eux.
On se demandait tout à l'heure, François de Singly, si c'était avant tout une histoire de milieu social, mais serait-ce avant tout plutôt une histoire d'époque? Les malheurs de Sophie vous racontent-ils la façon dont on élevait les enfants au 19e siècle?
À la fois, je pense que c'est la force du livre, c'est qu'on répond oui et non. Oui, parce que l'obéissance est la valeur supérieure au milieu du 19e, fin 19e. Durkheim, qui fait l'éducation morale pour l'école laïque, sociologue, dit « bien éduquer, c'est savoir se faire obéir ». C'est quand même... et dans son cours sur l'éducation morale, il doit y avoir, mettons, 9 chapitres. 8 chapitres sont consacrés à l'obéissance. Donc il est clair que c'est l'obéissance. La force du livre, c'est que justement la mère... Parce que la mère aristocrate, là, la comtesse de Ségur...
Madame de Réan.
Il n'est absolument pas du tout normal qu'elle s'occupe beaucoup de ses enfants. En permanence, elle est là. Bon, il y a la bonne, mais normalement... Les parents, soit ils sont au travail, même les mères, parce qu'elles sont dans le milieu classe ouvrière et tout, donc de toute façon, les enfants font ce qu'ils ont à faire.
Soit elles ont des domestiques qui s'occupent des enfants.
Soit elles ont des tas de domestiques. Mon père, dans ce temps-là, dans début du 20e, a des employés. Sa mère lui dit bonjour et bonsoir. C'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Donc il y a pas de, on désobéit pas forcément par rapport à ça. Et donc là, ce qui est quand même formidable, c'est qu'elle a cette règle dans sa tête. Au sens, c'est la norme, et en même temps, elle a un regard sur les enfants qui est un regard moderne quand même, c'est-à-dire, bon, elle est là, tout à l'heure on l'a vu avec les poissons, elle fait un raisonnement moral, mais pas un raisonnement d'obéissance. Mmh. Et donc c'était comme si elle était mi-dolto, mi-réac.
Mais je pense que ça correspond à sa propre existence, parce qu'en fait elle détestait Paris, elle n'était pas du tout mondaine. Mmh. Et elle a vécu en Normandie, avec l'argent que lui a laissé son père, elle avait un château nouette, voilà, en Normandie. Et là, les domestiques, donc les bonnes qui s'occupaient des enfants, elles étaient amies, en fait. Il y a eu 2 femmes qui sont été très proches des enfants et d'elle aussi. Et elle leur faisait l'école. Alors les garçons, elle était désespérée de devoir s'en séparer pour les envoyer dans des pensionnats, parce qu'elle pensait à raison qu'ils y étaient malheureux. Mais les filles, elle les a élevées à la maison. Donc je pense qu'elle était assez exceptionnelle dans son siècle.
Les bêtises. Évidemment, il nous fallait demander à des enfants d'aujourd'hui de nous parler de leurs bêtises. T'as fait quoi, toi, comme bêtise ? Juliette Proutot leur a posé la question.
Moi, je coloriais entre les carreaux de ma salle de bain, genre sur le joint. Voilà, je coloriais le joint. Ouais, c'est mignon, mais voilà.
J'ai cassé pas mal de trucs.
Okay, d'un casseur.
Ouais, j'ai cassé pas mal de trucs.
J'ai ouvert une boîte de bonbons à la déchetterie alors que j'avais pas le droit. J'ai été punie dans ma chambre. Enfin, je rentrais.
Bah, par exemple, une fois, j'avais dessiné sur la porte d'un tiroir avec un feutre, mais on a réussi à l'effacer. Avec une éponge magique.
J'ai pris le rasoir à mon père et j'ai rasé le quart de mes cheveux. Après, il m'a crié dessus et voilà, et ça m'est tombé dessus. Mais ça a bien repoussé, donc au calme.
J'avais allumé un briquet sur le canapé et le canapé, il avait failli brûler. Et du coup,
tu t'es fait punir
après.
Ouais, j'ai regardé le bêtisier en classe et je me suis fait punir.
La punition, c'était quoi?
Des heures de colle.
Bah, en courrier, elle m'a mis 4 heures de colle.
Bah, moi, en fait, c'est juste qu'on était chez mes grands-parents et en fait, on prenait des bougies et des allumettes et on allait les allumer dans un coin, sauf que les adultes se sont rendus compte. Du coup, après, ils étaient hyper fâchés parce qu'on était dans un endroit tout pourri avec plein de bois et tout. Voilà.
Moi, une fois, j'ai ramené mon téléphone au collège alors que mes parents, ils voulaient pas. Et après, j'ai été punie. Plus de téléphone pendant 1 mois et demi.
Moi, je voulais jeter ma petite sœur dans les escaliers. J'avais 3 ans, j'étais jalouse de ma petite sœur.
Moi, j'ai brûlé une poubelle.
Et t'as été malade ? T'es folle ou quoi ?
En fait, j'ai avec les allumettes. Et l'allumette, en fait, après, je l'ai achetée dans la poubelle. Mais l'allumette, elle n'était pas éteinte. Du coup, après, t'as dit, je vais mettre l'allumette dans la poubelle. Et je pars au salon. C'est pas après, je repars dans la chambre, ça. Je vois, il y a le feu, tout ça. Je crie vraiment mon grand frère et je dis, waouh! Lui, il va dans la chambre. Il voit le feu, il fait waouh! Il va dans la salle de bain, il a pris le seau, il a éteint le feu.
Moi, je me souviens que le jour où j'ai appris à écrire non en CP, le soir même, j'étais en désaccord avec mes parents et donc pour leur montrer que j'avais appris à écrire ce mot, je l'avais écrit au stylo bic sur le mur de leur chambre. Enfin, en petit, mais. Du coup, ma mère m'avait donné une bassine et une éponge et j'ai nettoyé tout le reste de la soirée.
Des enfants dans les rues de Paris au micro de Juliette Proutot. On l'entend, hein, la jubilation des gosses à raconter leurs bêtises, Marie Desplechin.
Exactement, je pensais la même chose que vous en les écoutant. Ils sont tellement contents. Et oui, en fait, ils revivent la transgression parce qu'il y a quelque chose de vraiment jubilatoire.
Écrire non sur le mur de la chambre des parents, ça c'est trop beau. Emblématique.
Mais les autres sont des formes d'expérimentation, je veux dire, se mettre derrière la bougie, tout ça. Non, pour moi, justement, le terme bêtise est un terme qui peut passer du 19e au 20e parfaitement. Je pousse un peu, mais j'ai pas forcément entendu que de la désobéissance là-dedans. C'est j'ai envie d'expérimenter, c'est pas désobéir d'abord que de mettre un peu de couleur entre les carreaux. C'est de l'expression, j'ai envie de le faire, donc c'est une bêtise. Pour moi, c'est justement, il y a les déplacements. Alors, ce qui est très fort avec le non, c'est que là, le non n'est pas qu'un marqueur de désobéissance, c'est une forme d'affirmation de soi. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, pas une désobéissance, mais une affirmation de soi qui prend la forme. Là, elle est strictement moderne. Dès que j'ai appris à dire non, je le dis. On pourrait là aussi revenir, et si tout le monde savait dire non, la société irait mieux, mais bon.
Mais en vous écoutant, je me disais que quand un enfant grandit, en fait, ce qui est compliqué, c'est que certaines choses sont... Il est clair, par exemple, on vous énonce certaines choses, certaines interdictions sont explicites, mais la plupart des règles sont implicites.
Écrire sur les carreaux de la salle de bain, on nous a jamais dit que c'était interdit.
Voilà, c'est ça. Et on ne peut pas faire la liste à un enfant de tout ce qu'il ne doit pas faire.
En plus, c'est pas dans les carreaux, c'est le joint qui n'a aucun intérêt. Non, mais je veux dire, rationnellement, si ça se trouve, c'est plus beau après qu'avant.
Voilà, donc, liste n'étant pas exhaustive, c'est à l'enfant de tout tester.
Il faut en faire l'expérience. Voilà. Il faut bien en faire l'expérience pour... on en fait l'inventaire, en fait.
Vous connaissez Mortel Adèle, Marie Desplechin, l'héroïne de bande dessinée créée par Monsieur Tan, alias Antoine Doll. On lui a consacré une émission. Évidemment, je pense à elle, puisqu'on parle de bêtises. Mortel Adèle serait-elle de la même trempe que Sophie?
Elle est plus âgée quand même.
Il y a quelque chose. Elles se ressemblent, elles sont pas tout à fait pareilles. Oui, elle est un peu plus grande.
Petite teigne un peu les deux, pas du tout, non.
Sophie, c'est pas une teigne. Adèle, c'est une teigne. Adèle, elle a pas. Il y a un tas de moments, elle est pas sympa du tout. Adèle, quand même,
Elle est plus proche pour moi, presque près à deux. Non, mais il y a un côté.
Oui, exactement.
Honnêtement, pour moi, c'est loin. En revanche, j'ai amené un livre d'une héroïne donc Mimi Cracra. Pour moi, c'est Sophie. Mais Sophie, elle a le droit maintenant d'expérimenter. Mais elle expérimente sur l'eau. Là, on la voit pas couper forcément des poissons. Mais pour moi, le changement, c'est que là, c'était présenté comme, d'une certaine façon, la version un peu positive. C'est-à-dire, j'ai le droit... de me salir, de...
Les années 70,
donc, à partir des années 60, il y a quand même une lutte très importante entre la vertu de l'obéissance qui en prend un coup, parce que ce qui compte, c'est quand même, pour devenir soi-même, apprendre à avoir des expressions personnelles. Et ces expressions personnelles, par construction, c'est pas forcément des réussites. Donc, Mimi Cracra, ou dessiner, mais pas tout à fait où on pensait que, etc. Donc...
Et il y a quelque chose qui les rapproche aussi, c'est qu'elles sont très physiques. Et ça, c'est vraiment très notable chez Sophie, c'est que c'est une héroïne, et la comtesse de Ségur, quand elle décrit les petites filles, elles sont physiques. Elles courent, elles se battent, elles se couvrent de flotte, comme disait la gamine, elle se rase les cheveux, les sourcils. Et Mimi Cracra, c'est pareil. On la voit, c'est la jouissance physique d'exister.
Oui. À ce titre-là, c'est le contraire de Paul, le petit cousin parfait, très sage, très doux.
Oui, alors c'est marrant parce qu'elle qui a ce côté justement si réactionnaire sur la question des genres, ça elle n'est pas du tout. Parce que Sophie, c'est l'anarchie, la violence, la brutalité, le cri. Et Paul, c'est toutes les vertus féminines. Paul, c'est la douceur, l'obéissance, la compassion. Et ils sont merveilleux en ce sens-là parce qu'ils ont changé les vertus.
Féministe, la comtesse de Ségur, Marie Desplechin.
Non, elle détestait Georges Sand. C'était le cauchemar total. Elle ne voulait même pas en entendre parler. Pour elle, ça aurait été terrible. Mais c'est toujours pareil. Dans les faits, oui. C'est-à-dire que Sophie, c'est une héroïne indépendante.
Mais la comtesse de Ségur était ulcérée que son nom de naissance, Rostopchine, n'apparaisse pas sur la couverture de ses livres.
Oui, parce qu'elle tenait à son nom, parce qu'elle adorait son père, parce que c'est toujours pareil. C'est ça qui est tellement intéressant chez elle, c'est qu'elle est double, quoi. Elle va dans les deux sens.
Les malheurs de Sophie ont été beaucoup adaptés en dessin animé, en bande dessinée, en film, par Jean-Claude Brialy dans les années 1980 et plus récemment par Christophe Honoré. Son film est sorti en 2016. Golfit et Farani incarnent Madame de Réan, Caroline Grange ou Sophie. Alors ce film est une adaptation des deux romans, Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles Modèles. Dans le deuxième roman, la pauvre Sophie se retrouve orpheline. Elle est élevée par la compagne de son père et c'est Muriel Robin qui incarne l'horrible Madame Fichini.
Une lettre de votre cousin.
De mon cousin Paul ?
Paul, oui, votre cousin. Vous n'avez pas d'autres cousins, que je sache. Alors, il vous écrit d'Amérique. Ma chère Sophie, mais est-ce que vous pensez que vous méritez que je vous fasse lecture de cette lettre ?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas ?
Je ne la mérite pas, madame.
Nous sommes d'accord. Dommage, c'était une lettre charmante. Enfantine, mais bien troussée. Un peu sentimentale, peut-être, ma petite zizine par-ci, ma petite zizine par-là. Il prétend qu'il a adopté un perroquet, il lui a appris à dire « j'ai une idée », comme ça. Avec lui, je pense à toi. Enfin, vous ne la méritez pas, alors, hop, au feu. Allez, au feu, Sophie. Merci. Allez, mademoiselle, montrez-moi.
Faut montrer quoi ?
Montrez-moi à quel point vous pouvez être triste.
Je ne comprends pas.
Prenez votre air bien malheureux.
Je ne sais pas.
Pensez à votre cousin. Tout seul, en Amérique, avec son perroquet.
J'ai une idée ! J'ai une idée ! Mais je suis pas triste. Je suis heureuse que Paul m'a écrit. Je suis sûre qu'on va bientôt se revoir tous les deux.
D'accord. D'accord. Vous pouvez monter. Louis, on viendra vous coucher.
Bonne nuit, maman.
Vous êtes forte, Sophie, mais je suis plus forte que vous. Allez.
Elle l'appelle maman, mais c'est bien sa belle-mère, extrait du film de Christophe Honoré avec une impériale Muriel Robin dans le rôle de Madame Fichini. Alors Paul a appris à son perroquet à dire « j'ai une idée ». N'est-ce pas la meilleure manière de raconter la petite Sophie, finalement, Marie de Plechin ? « J'ai une idée ».
C'est vrai que Sophie, elle est... son problème, c'est qu'elle est débordée par ses idées. Par sa créativité. Mais comme beaucoup d'enfants, hein, quelquefois, ils sont très touchants à cause de ça. On les voit... cet extrait, il est bien aussi parce qu'on voit c'est marrant, comme les bons héros pour l'enfance sont des héros qui n'ont plus de parents. Ce sont des héros aux familles explosées. Et elle est vraiment dans cette lignée-là. La comtesse de Ségur, Roald Dahl, elle n'a jamais de parents. Et quand il y a des parents, d'ailleurs, on les fuit. Il est très autorisé de fuir des parents dysfonctionnels. Et recréer, en fait, des communautés familiales. Et elle va recréer dans les petites filles modèles une communauté qui est un gynécée, d'ailleurs, hein, où il n'y a que des bonnes femmes et des enfants. Et alors, il y a des mauvaises bonnes femmes, Fichini, il y a des très bonnes femmes. Et donc, on recrée une famille dans laquelle chacun arrive à trouver sa place. C'est pas une réponse, quoi, mais c'est vraiment une question. C'est ce fonctionnement de la famille dans les grands romans pour les enfants.
Et d'ailleurs, le premier volet s'appelle Les Malheurs de Sophie, mais il lui arrive pas tellement de malheurs au début. Le drame survient au début du deuxième tome, au début des petites filles modèles, la mort des parents. Mais le premier, c'est plutôt des bêtises, des expérimentations, des aventures.
Oui, mais c'est des malheurs parce que elle se fait prendre et donc elle se fait punir. Donc on peut appeler ça un malheur.
À son échelle, c'est très grave.
Voilà, c'est ça. Mm. Et dans l'ordre, elle a d'abord écrit Les Petites Filles Modèles et après Les Malheurs de Sophie. Elle a développé le personnage de Sophie.
François de Saint-Gly, comment aider l'enfant à devenir lui-même ? C'est le titre de l'un de vos livres chez Armand Collin. Et vous y proposez un nouveau métier pour les parents, le métier de voyagiste. Diriez-vous que la famille, telle qu'elle est décrite dans les textes de la comtesse de Ségur, raconte cette idée-là ? Les parents sont des voyagistes ?
Ah non, non, bien justement, entendu, hein. C'était pour le virage. Alors c'est toujours difficile de donner des dates, mais de mon point de vue, on est quand même autour des années 60, un peu avant 68, la naissance de Pomme d'Api, par exemple, si on reprend des histoires, il y avait la famille plus que parfaite, la famille imparfaite. Et la famille imparfaite, c'est des nouveaux voisins qui arrivent, alors ils se tiennent mal, sont décoiffés, toujours quand même, effectivement, il faut que le corps marque, alors que dans l'autre, tout est impeccable, sauf que dans l'une, eh bien, on entend toujours chanter, les parents jouent avec les enfants, etc. Et à la fin... C'est quand même Bayard Presse, mais à l'époque, ça s'appelle encore la Bonne Presse, hein, qui publie ça. Et la morale, c'est que la famille, plus que parfaite, a perdu. C'est-à-dire, ils découvrent que c'est quand même mieux d'être imparfait que d'être plus que parfait. C'est quand même un changement normatif. Et donc, effectivement, la logique de l'obéissance, tout n'est pas supprimé. J'ai amené aussi des assiettes, parce qu'elles me fascinent.
Vous êtes venu avec des assiettes, et pourquoi pas
je ne... parle pas la bouche pleine. C'est... Quand j'ai fini, je mets mes couverts à 4h20. J'en ai au moins une vingtaine.
C'est Soledad Bravi, je crois, l'illustratrice. Hein.
Oui. Donc, elles me plaisent d'abord. Elles sont inclassables, donc ça, c'est quand même intéressant. Mes petits-enfants se disputent toujours pour savoir. Ils choisissent la règle et tout. Bon, par principe, on rappelle la règle. Mais si on regarde, ils sont tous déguisés. C'est-à-dire que cette règle...
Je ne parle pas la bouche pleine, par exemple.
Non, excusez-moi. Donc, c'est des reines, c'est des princesses. Mmh. C'est jamais un enfant normal. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on rappelle la règle, mais on dit que c'est un déguisement social. Donc, à ce moment-là, vous pouvez apprendre la règle, parce qu'à certains moments, c'est quand même utile, en sachant que c'est pas une expression personnelle. Et donc, ça, pour moi, c'est un très... Quand je les ai découvertes, je les ai trouvées un magnifique compromis. À certains moments, on doit se déguiser, mais il faut pas oublier que c'est du déguisement. Et à ce niveau-là, la comtesse de Ségur, sa force, c'est que elle rappelle en permanence le fait qu'il y ait des règles, qu'obéir et tout, et ça... gentillesse sur le fond, sa compréhension, elle écoute quand même un enfant. Normalement, dans la logique de l'obéissance, on lui demande pas ses raisons de s'exprimer et tout. Hein. C'était un ordre pour un enfant, n'a pas à être discuté. Donc, il n'y a pas à tenir compte des intentions de l'enfant. La comtesse de Ségur, elle est dans un monde traditionnel et elle est tout d'un coup comme si elle avait commencé à lire le supplément Parents de pommes d'api. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant.
Ce qui est très beau chez elle, c'est que c'est pas décidé. C'est-à-dire, elle n'y peut rien. En fait, elle est comme ça. Et si elle devait le décider, elle irait certainement, elle dirait des choses horribles. Elle est amie avec les plus réactionnaires de l'époque, des journalistes. Mais son fond n'est pas comme ça. Son fond reste celui de l'enfant créative, désobéissante, inventrice et injustement punie. C'est ça qui en fait vraiment un super bon écrivain. C'est qu'elle le maîtrise pas.
Love and Hate in Different Times, c'était Gabrielle's sur France Inter. Vous nous avez donné envie, Marie Desplechin, de lire des biographies de la comtesse de Ségur, Sophie de Rostopchine. On lit aussi l'une et l'autre aux éditions de l'Iconoclaste, un texte, un ouvrage collectif dans lequel vous signez un texte sur la comtesse de Ségur. Les malheurs de Sophie, bien sûr, les petites filles modèles et les vacances, à lire à tout âge. À partir de quel âge, d'ailleurs? Dès qu'on sait lire?
Moi, je dirais... Non, dès qu'on sait lire, peut-être même avant, vous pouvez le lire avec quelqu'un qui commence à lire, qui a 5-6 ans, parce que il reconnaîtra les choses qui lui arrivent, et on peut le lire, encore une fois, avec toutes sortes d'enfants, et c'est vraiment fascinant comme c'est universel. Mmh. Et c'est très beau de le lire à haute voix, parce que la langue est très belle.
Et même si Sophie vous voit ses parents, et que ses parents la vous voient,
c'est un monde de fiction, donc ils vont être, non seulement ils vont être contents, mais ils vont découvrir des mots, avoir envie d'imiter cette manière d'écrire. C'est très contagieux, la manière d'écrire de la comtesse de Ségur. Non, moi je vois que des bénéfices, allez-y.
Et je recommande aussi cette adaptation chez Glénat Jeunesse, Les malheurs de Sophie, racontés par Sophie Marceau, un texte de Jean-Pierre Kerlock, d'après la comtesse de Ségur. Que choisir d'autre au rayon jeunesse de votre librairie? Voici bien sûr Denis Chessou et ses conseils avisés.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là tu lis, mon petit loup.
Merci Dorothée. Et bah oui, hop, l'actualité du livre pour enfants, la clé de lecture de demain. Nous débutons par Amour, amour, après quoi chacun court, de Mélusine Thierry, illustré par Julie Guillem aux éditions Onfeuille à partir de 3 ans. Le jour se lève, une petite fille s'éveille au premier rayon du soleil. Ah, quelles seront les préoccupations qui l'occuperont jusqu'au coucher? Du travail ou des corvées? Eh ben non, de l'amour.
Dans le ciel, l'oiseau s'envole déjà vers qui le cajolera.
Au cœur de la forêt, les animaux sont aussi en quête de tendresse.
Au milieu des sous-bois, la renarde hâte son pas vers qui l'enlacera.
Du plus rusé d'entre eux jusqu'au plus petit rongeur.
À travers champs, la souris file vers qui la caressera.
Même ceux qui semblent pressés cherchent à se faire chouchouter.
Par-dessus les collines, le sanglier s'élance vers qui le dorlotera.
Et ce n'est pas parce que certains prétendent que l'on n'existe pas que l'on n'a pas le droit d'être aimé.
Sous le soleil, la licorne trotte vers qui l'embrassera.
Alors la nuit, on découvre que les animaux qui peuvent paraître effrayants ne demandent eux aussi qu'un peu d'attention.
Le soir venu, le loup se rend vers qui l'enchantera.
Et ceux qui font sursauter veulent simplement être rassurés.
Sous les étoiles, la chouette appelle qui l'apaisera.
Mais il en reste encore un qui n'a pas encore reçu sa dose d'affection.
Et dans son lit, l'ourson attend qui le bercera.
Et ça tombe bien car la petite fille a deux bras.
Est-ce que ce sera toi?
Alors, amour, amour, après quoi chacun court? Eh bien, voilà un titre aux accents philosophiques avec sa parade élégante et azurée d'animaux. Et alors là, on est quand même dans une action avec un même objectif, celui d'être aimé et d'aimer en retour. C'est doux, avec des caresses, des embrassades promises. On est entre l'imagier animalier, imprécis de vocabulaire affectueux et réflexion sur le sens réciproque de l'amour. Donc cet album du soir sera propice à la rêverie autant qu'à la douceur et à la pensée. C'est signé Mélusine Thierry, illustré par Julie Guillem aux éditions Onfeuille à partir de 3 ans. Pomelo Imagine, de Ramona Badescu, Benjamin Chaud, chez Albin Michel Jeunesse, à partir de 4 ans, un classique et une nouveauté à la fois. Classique car Pomelo, le petit éléphant rose, a 18 ans, et nouveauté car c'est un nouvel album, ode à l'imagination et à son pouvoir. Quand il reste longtemps assis à regarder les vagues, le mouvement des nuages, à laisser l'air marin envahir sa trompe,
Pomelo se dit qu'être ici et maintenant, c'est quand même drôlement bien.
Très spinozien, notre Pomelo. Il imagine que de l'autre côté de la mer, quelqu'un le regarde, qui est en train de faire la même chose avec sa longue vue.
Il imagine qu'il pourrait être quelqu'un d'autre.
Clin d'œil à Pinocchio, Babar, Elmer, Max et les Maximons. Alors il sent bien qu'il occupe une petite place dans l'univers que personne ne pourrait occuper exactement comme lui. Il imagine aussi l'avant, lui.
Un petit mammouth rose, son ancêtre dans la neige.
Et tout ce qu'il y aura après lui.
Pomelo n'imagine pas un monde sans fleurs.
Il imagine que les légumes, les brins d'herbe et peut-être les cailloux parlent.
Il réalise que dans « imagine », il y a le mot « image » et un peu de magie aussi.
Pomelo imagine ce que serait sa vie dans un autre livre.
Il imagine comment ce serait d'être papa.
Et le voici entouré de 25 éléphantaux, ouais, avec un seul biberon.
Il imagine comment serait la vie s'il changeait un peu l'histoire.
Et le voici avec sa rose sur une planète.
Il imagine que si chacun portait un tout petit bout, on pourrait transporter des montagnes.
Il se demande si ça changerait quelque chose s'il était une fille. Alors l'imagination crée des situations qu'on aimerait éviter, mais crée aussi le rêve, transforme l'avenir, suscite aussi l'inquiétude quand on attend Stella.
Et Denis, les « et si », les poupées russes de l'imaginaire fonctionnent parfaitement.
Ah, complètement. La palette d'espoir, de jeux, de frayeurs, de questionnements philosophiques avec ce pomelo imagine dessine toute la force de cette faculté enfantine qui permet de jongler volontairement avec tous les possibles. Une réussite de plus, pomelo imagine, Badescu, Chaud, aux éditions Albin Michel Jeunesse à partir de 4 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala. Eric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
Et pour trouver les références des livres conseillés, on se connecte sur le site de France Inter à la page de Barbatruc, rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?». L'émission touche à sa fin. J'ai une toute dernière question à poser à mes deux invités, le sociologue François de Saint-Gly et la romancière Marie Desplechin. Question rituelle qui concerne votre enfance. Quelle est l'odeur de votre enfance, François de Saint-Gly ?
J'ai honte, hein, mais je vais assumer quand même.
Allez-y.
La première chose qui vient, c'est l'encens. J'étais enfant de cœur et je trouvais ça quelque chose de... Il y avait, j'ai jamais osé allumer les bougies, les choses comme ça, comme tout à l'heure. Donc il y avait quand même un côté, et je vais dire une bêtise que j'ai faite, que j'étais enfant de cœur, et donc il fallait remettre, un truc, et j'étais genre un dimanche après-midi, genre salut du Saint-Sacrement et tout, et avec moi comme enfant de cœur, et paf, ça tombe, et ça brûle le tapis.
Le tapis d'église.
Ben, j'ai remis vite et tout, et je l'ai jamais dit. Et quand même, sans doute, j'en ai
pas oublié, c'est ça qui est marrant.
Ah non, j'y pense.
Confus,
c'est
oui.
Un peu la honte, mais bon.
Elle vous pourchasse.
L'odeur
mais
de
l'encens. Mais c'était une bêtise qui, en même temps, n'a pas d'intérêt. Enfin, par rapport à... C'est quand même beaucoup mieux la comtesse de Ségur que François de Saint-Gly. Parce que c'est une bêtise pour expérimenter quelque chose. Tandis que là, c'est un geste maladroit, donc c'est nul.
Bah, c'est moins grave, d'ailleurs. Ça, c'est une théorie que souvent ont les enfants. C'est moins grave quand on n'a pas fait exprès.
C'est à la fois moins grave, mais justement, pourquoi la raconter.
Et vous, Marie Desplechin, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Ah, il y en a beaucoup. Alors, je pourrais dire vent vert de Balmain, mais j'en ai une autre. C'est parce que c'était le parfum de ma mère. C'est ma grand-mère fumait des cigarettes roulées dans un tabac qu'on achetait en Belgique qui s'appelait le Vervic, qui était un tabac très très brun, qui était vraiment... Et on lui roulait ses cigarettes le matin. Et chez elle, ça sentait cette odeur du Vervic. Une espèce d'odeur de pastis qui était l'apéritif qu'on prenait avant les repas. Pas les enfants, mais les adultes. On était assez vite adultes. Et l'odeur de la soupe. J'adorais cette cuisine, la soupe. Vous savez, l'odeur du poireau et de l'oignon, quand ça cuit, vous avez faim. Et c'est tout
ça
se met dans mélanger, voilà. Ce qui fait que j'ai pu rentrer dans tous les cafés depuis n'importe quelle rade et avoir une espèce de sentiment, une madeleine incroyable de retrouver mon enfance. Et c'était magique. Jusqu'à ce qu'ils interdisent de fumer dans les... Dans les cafés, ce qui pour moi était évidemment un drame.
Et on mélange toutes ces odeurs, hein, le tabac à rouler, la soupe de votre grand-mère et l'encens de l'enfance de François de Saint-Gly. Merci beaucoup à tous les deux. La Capucine de Marie Desplechin est à lire à l'École des loisirs, tout comme les deux volets précédents de cette trilogie, Séraphine et Satin Grenadine. Les Adolescents de François de Saint-Gly, mais aussi Comment aider l'enfant à devenir lui-même, sont disponibles chez Armand Collin. Bonne soirée et à bientôt sur France Inter.
Bonne soirée.
Bonsoir.
La semaine prochaine, on poursuit notre série d'émissions spéciales sur les religions et on s'intéresse au judaïsme, la Torah expliquée aux enfants, avec un épisode en particulier, l'Arche de Noé.